Donc je voulais vous remercier, le comité scientifique de ce séminaire, de m'avoir proposé de présenter mes travaux de recherche. Alors, mes travaux, ils se focalisent sur la notion de trame verte et bleue. Et aujourd'hui, cette notion-là, elle dialogue très fortement avec les solutions fondées sur la nature dans l'aménagement de l'espace. Alors, solutions fondées sur la nature, adaptation fondée sur l'écosystème, trame verte et bleue, bah, de quoi parle-t-on? Et aujourd'hui, pourquoi les trames vertes et bleues, en fait, nous donnent des éléments de discussion par rapport au NBS. Alors, ce sont des cadres conceptuels qui émergent d'une approche holistique, hein, qui rassemble et équilibre les multiples avantages environnementaux et sociaux, économiques associés à la nature. Et elle est fortement mobilisée aujourd'hui dans le contexte urbain. Alors, ces cadres conceptuels ciblent de manière commune l'adaptation au changement climatique et la préservation de la biodiversité, mais aussi cible l'action de l'échelle locale comme modalité d'intervention. Alors, l'origine des trames vertes et bleues et son institutionnalisation nous donne aujourd'hui un éclairage sur une possible incorporation dans le droit des solutions fondées sur la nature, comme hier nous l'évoquait Frédéric. Alors, les trames vertes et bleues, je vous le rappelle, hein, c'est une politique qui a été mise en place par le Grenelle de l'environnement et qui, du coup, vise à assurer la continuité biologique de grands ensembles dits naturels et qui cible l'échelle régionale à travers les schémas de cohérence écologique, mais aussi les documents de planification à l'échelle intercommunale, donc les SCoT et les PLU, pour mettre en place cette politique de trame verte et bleue. Donc les trames vertes et bleues, c'est un outil d'aménagement qui est constitué des grands ensembles naturels et des corridors, et qui est complété par une trame bleue formée de masses d'eau et de cours d'eau, telle que la loi Grenelle 2 l'a institutionnalisée dans les années 2010. Alors, lorsqu'on développe des politiques trames vertes et bleues à l'échelle intercommunale en termes de planification, eh bien, on doit prendre en compte à la fois les stratégies européennes Natura 2000, mais aussi les stratégies qui sont définies dans les SDAGE et dans les SAGE sur les questions de trames bleues. Alors, cette politique trame verte et bleue, elle a eu un certain nombre a posé un certain nombre d'avancées, notamment le fait de poser la continuité écologique et la fonctionnalité des espaces en tant qu'élément important de planification de l'aménagement du territoire. Et à mon avis, la deuxième grande force de cette politique trame verte et bleue, c'est qu'à l'échelle régionale comme à l'échelle locale, du fait qu'elle interroge des espaces publics comme des espaces privés, elle mobilise un certain nombre d'acteurs différents, d'horizons différents, que ce soit les collectivités locales, l'État, les associations environnementales, les syndicats d'agriculteurs, les chasseurs, etc., etc. Alors, j'ai organisé mon propos en trois temps. Tout d'abord, les origines diverses des trames vertes et bleues. Quelles conséquences ça a en termes d'appropriation de la notion? Un deuxième temps sur le fait de la difficile mobilisation à l'échelle locale de cette politique trame verte et bleue. Et dans un dernier temps, bah, finalement, comment elle a permis l'émergence de nouvelles modalités de gouvernance de la nature et notamment de la nature urbaine. Alors, quand on s'intéresse à la notion de trame verte, eh bien, on voit qu'il y a différentes visions et cultures qui se confrontent dans cette appropriation et on peut retracer un petit historique qui nous permette d'appréhender ces différentes appréciations. On peut citer tout d'abord, fin du 19e, eh bien, Homestead aux États-Unis, qui a développé son système de parcs et qui a été repris en France par Jean-Nicolas Forestier, et qui affirme la nécessité de penser un développement urbain à partir d'un système de parcs qui recouvre des espaces divers, que ce soit promenades, parcs, squares, etc., tel qu'on peut le voir dans la typologie aujourd'hui parisienne. On est dans un projet qui est profondément social, avec une double vision, une vision hygiéniste, hein, de régénération au contact de la nature, mais aussi une vision esthétique d'embellissement de la ville. Fin des années 60, début des années 70, on fait le constat d'un mitage de la campagne par l'urbanisation et de la fin du modèle ville-campagne, avec une très forte fragmentation des habitats et une diminution forte de la biodiversité. Et donc une nouvelle science, l'écologie du paysage, qui a été formalisée aux États-Unis par Forman et Gaudron et qui a été repris en France par Burel et Baudry, nous dit eh bien, il faut limiter cette fragmentation des territoires, il faut permettre la circulation des espèces entre les grands ensembles paysager et donc introduit la notion de corridor écologique pour appréhender la circulation des espèces végétales et animales dans les territoires. La troisième origine que l'on peut identifier à travers ces politiques de trame verte, eh bien, c'est le fait que cette notion-là a été réinterprétée par les acteurs politiques et professionnels de l'aménagement dès les années 80, à travers les notions tout d'abord de ceinture verte, puis de trame verte, puisqu'on voit dans les schémas directeurs dès les années 90 que cette notion-là de trame verte est mobilisée dans un but de limiter l'étalement urbain, mais aussi de pouvoir agir sur les enjeux durables de l'aménagement durable de l'espace, avec à la fois une préoccupation des intérêts écologiques, mais aussi des intérêts socio-économiques de l'aménagement des trames vertes à l'échelle intercommunale. Pour les trames bleues, c'est un petit peu différent. En fait, on n'a pas tout à fait la même épaisseur historique que l'on peut voir sur les notions de trame verte, même si Olmsted, au 19e, s'intéressait déjà aux espaces semi-aquatiques et leur capacité de résilience, comme on peut le voir dans l'aménagement qui a été fait à Boston. Mais on constate surtout qu'en termes opérationnels, la question de la continuité écologique aquatique a quelques longueurs d'avance sur la continuité écologique terrestre, et notamment au regard des différentes dispositions européennes qui ont été mises en place, avec notamment la déclinaison à travers des stages et des sages effectués par la loi sur l'eau sur les milieux aquatiques du Léman. Donc on voit qu'il y a la mise en place d'un dispositif et d'un réseau d'acteurs en termes de planification qui est beaucoup plus plutôt que les trames vertes, même si on n'a pas tout à fait la même épaisseur historique. Alors, qu'est-ce qui en découle dans les acceptations locales selon les échelles? Eh bien, à l'échelle régionale et nationale, on voit que cette politique trame verte et bleue, elle est essentiellement développée sous une vision écologique qui vise à favoriser la conservation de la biodiversité, telle qu'on peut le voir à travers les lois Grenelle 1 et Grenelle 2. À l'échelle locale, on interprète ces politiques TVB dans une vision davantage récréative et sociale, de la mise en valeur des espaces, des déplacements doux. Et enfin, on voit qu'à l'échelle intercommunale, à travers les documents de planification, ces politiques trame verte et bleue, elles sont développées à travers une vision multifonctionnelle qui vise à limiter l'étalement urbain, améliorer le cadre de vie, prendre en compte la biodiversité et s'adapter au changement climatique. Donc, on voit qu'il y a une vision beaucoup plus large de cette acception de trame verte et bleue. Alors, qu'est-ce qui en découle? À travers un certain nombre d'enquêtes que j'ai pu mener depuis une dizaine d'années, on voit qu'il y a une existence difficile qui s'exerce à l'échelle locale dans la mise en place des trames vertes et bleues au sens strict du Grenelle. Tout d'abord, ce que l'on peut dire, c'est le caractère hétérogène dans l'analyse de Diver Scott de la prise en compte de ces trames vertes et bleues. Le caractère peu prescriptif, on voit un caractère peu prescriptif sur la mise en place des TVB à l'échelle des SCOT et une faible déclinaison réglementaire à l'échelle communale dans les PLU. Alors, on peut évoquer différentes hypothèses, hein, la difficile traduction entre SCOT et PLU avec les difficiles changements d'échelle et philosophie entre les volontés de planification multifonctionnelle et la traduction réglementaire à l'échelle de la parcelle dans le PLU. L'autre hypothèse que l'on peut faire, c'est l'absence d'un outil spécifique à la notion de trame verte et bleue dans le PLU, qui fait qu'on doit faire un arbitrage nécessaire entre les zonages, entre les OAP que l'on peut mettre en place pour définir ces trames vertes et bleues. Alors, le fait d'avoir défini d'un point de vue réglementaire l'institutionnalisation de ces trames vertes et bleues fait qu'on a un choix qui est l'outil réglementaire, qui est le fruit d'un arbitrage politique et qui finalement développe une démarche assez top-down de cet outil-là. Et mine de rien, ça focalise en fait la déclinaison des trames vertes et bleues à travers le service de l'urbanisme et de la planification, qui est un service qui, historiquement, est plus sensible aux questions socio-économiques de l'aménagement du territoire que la prise en compte de la biodiversité. Donc, on observe une crispation relativement forte de ces services-là à l'égard de la mise en place des TVB, notamment parce que ces SCOT et ces PLU concentrent un certain nombre de thématiques. Et donc, on voit que finalement, cette inscription de la TVB intervient dans les SCOT et dans les PLU de manière peu prescriptive avec une déclinaison à minima dans les documents graphiques des PLU. Alors, cette difficile existence, elle est liée à différents éléments. C'est la large manœuvre dans la définition de ce tracé des trames vertes et bleues qui est laissée aux acteurs locaux. Le flou juridique qu'on a derrière la mise en œuvre de cette politique TVB qui fragilise l'efficacité du dispositif dès le démarrage. La notion de prise en compte qui est retenue dans le niveau d'opposabilité, ce qui fait que du coup, on a une faiblesse dans le fait d'opposer la trame à des projets d'aménagement qui pourraient lui porter atteinte. Et finalement, une efficacité de la politique TVB qui est dépendante à la fois de la motivation et de la volonté des acteurs locaux et la possibilité d'assurer sa pérennité à long terme. Malgré ce tableau un petit peu pessimiste, finalement, on se rend compte qu'il y a une émergence de nouvelles modalités de gouvernance de la nature qui s'instaurent à travers ce dispositif-là réglementaire. À travers notamment la volonté de sortir de cette politique stricte réglementaire des TVB en investissant des champs sémantiques à l'échelle locale beaucoup plus large, puisqu'on mobilise armature verte et bleue, on mobilise solutions fondées sur la nature, etc. Alors, on peut dire que l'émergence de ces nouvelles modalités de gouvernance, elle s'exprime à travers trois points. Le premier point, c'est la planification, puisqu'on a de nouvelles compétences et outils réglementaires qui sont mobilisés. On l'a évoqué hier à travers la GEMAPI, mais aussi à travers le fait qu'il y ait une coopération entre les services des collectivités qui se fait de plus en plus forte. Hein. On voit que l'émergence, notamment depuis une quinzaine d'années, du service environnement, qui est un pôle un petit peu à l'interface entre services de l'urbanisme et services des espaces verts et qui a un pied à la fois dans les modalités de planification mais aussi de gestion de ces espaces, ou la mise en place de nouveaux outils réglementaires comme l'obligation réelle environnementale qui a été instituée par la loi biodiversité 2016, qui est un instrument qui, qui permet la protection de la biodiversité dans une protection environnementale sous forme contractuelle d'initiatives privées ou publiques. Le deuxième point de ces émergences, ces nouvelles modalités de gouvernance de la nature, c'est finalement le fait d'intégrer dans les opérations même d'aménagement une focale sur la gestion de la nature, que ce soit, vous verrez dans l'exemple de gauche à Angers, dans les rénovations de grands quartiers, de quartiers de grands ensembles. Et là, on voit notamment toute la politique de rénovation verte qui a été menée dans le quartier de Belle-Beille à Angers et qui fonde toute le réaménagement de ce quartier politique de la ville sur le fait de rétablir des continuités écologiques à travers les services rendus par la nature. Et le deuxième exemple que je vous propose, c'est finalement l'écoquartier de la Courrouze, hein, à Rennes, qui a une politique assez exemplaire sur la gestion des eaux pluviales dans ce quartier-là, où on fonde l'aménagement de cet écoquartier sur l'organisation paysagère du site, avec du coup une volonté de préserver l'existant et de construire le quartier au regard de l'existant de l'espace. Et le troisième élément que je voulais vous soumettre, eh bien, dans ces gouvernances de la nature, c'est les gestions environnementales qui s'initient avec notamment l'instauration de nouvelles coopérations avec des acteurs, que ce soit privés, comme vous pouvez voir à travers la charte de la biodiversité qui s'est initiée à Strasbourg, ou le parc naturel urbain également à Strasbourg qui vise sous le même modèle que les parcs naturels régionaux à mettre en place une gestion de la nature dans ce quartier-là à travers un collectif d'habitants qui définit une charte et des préconisations d'action sur le territoire. Donc, en conclusion, ce que l'on peut dire sur cette politique train vert et bleu, c'est les difficultés de planification que l'on peut voir avec une échelle nationale et régionale qui développe davantage une vision écologique et une échelle intercommunale et communale qui est davantage ancrée dans une réalité sociale. Et tout l'enjeu, eh bien, c'est de faire dialoguer ces différents niveaux pour aller vers une meilleure multifonctionnalité de l'espace. D'autant plus qu'on a finalement à l'échelle nationale, régionale et intercommunale, en instituant la politique TVB à travers un outil réglementaire, finalement des stratégies qui visent à agir sur l'espace privé en termes de planification, alors même qu'à l'échelle communale, on a à travers la mise en place de gestion alternative, des stratégies qui visent davantage à agir sur l'espace public. Alors, pour terminer, l'une des principales forces, à mon sens, de ces politiques TVB, c'est de rassembler un certain grand nombre d'acteurs autour de la volonté de mettre en place une même politique et de constituer une culture commune qui permet à ces acteurs d'interagir entre eux. Et surtout, ce qui m'apparaît assez important, c'est qu'il faut passer d'une pensée cartographique qui inscrit le territoire national dans une certaine synchronicité à une pensée de l'expérimentation vers une contamination à l'échelle locale des différentes expériences que l'on peut voir dans un grand nombre de territoires. Je vous remercie de votre attention. Et je suis navrée encore pour ces problèmes de présentation.
Merci beaucoup, Laure, pour cette présentation très riche et extrêmement intéressante. Alors, il y a deux questions déjà qui ont été écrites sur le chat. Donc, une première question, je vais vous la poser dans l'ordre, de Cathy Véret, qui demande est-ce que la mise en place de la compétence GEMAPI fait bouger les choses ou est-ce que c'est encore trop tôt?
Alors, je ne suis pas encore tout à fait capable de répondre à cette question-là parce que justement, GEMAPI, c'est 2018. On voit que les services sont en train de se structurer par rapport à la mise en place de cette nouvelle compétence. Mais J'aurais tendance que oui, ça commence à bouger dans des enquêtes qui ont été menées cette année. Les acteurs des services, des collectivités commencent à évoquer cette compétence GEMAPI pour gérer justement ces trams bleus, sachant qu'à l'origine de cette politique trams vertes et bleues, on avait surtout un souci à agir sur une politique de trams vertes. Et c'est quand la question des zones humides est arrivée dans les dialogues et dans la mise en place de cette politique-là que le comité, le COMOP du Grenelle, s'est dit qu'il fallait réintégrer cette trame bleue à cette politique-là pour avoir donc une politique intégrée trames vertes et bleues. Et je suis persuadée que la compétence GEMAPI à l'échelle intercommunale va permettre une meilleure intégration entre ces deux volets-là, trames vertes et trames bleues.
Merci. On va peut-être prendre une nouvelle question avant de passer à la prochaine intervention. Donc, une question de Johanna Guérin. Quelle articulation des trames vertes et bleues avec les SFN dans les services d'urbanisme, remplacement, complémentarité et concurrence? Et puis, en même temps, elle voulait savoir sur quel terrain vous aviez travaillé, notamment à l'échelle communale.
Alors, sur les terrains, alors moi, j'ai fait ma thèse à Angers, donc sur l'intercommunalité angevine, donc pendant 3 ans. Et après, j'ai fait différents travaux de recherche sur différentes collectivités en France, donc Strasbourg, Rennes, Montpellier, Paris, le Val-Maubuée, Perpignan, Lille, Lyon. Et donc, ce qui a permis un petit peu d'agréger les différents propos de cette présentation-là. Et alors, moi, je pense que dans les services de planification et d'urbanisme, on est encore sur le volet TVB parce que c'est l'aspect réglementaire aujourd'hui qui vise à avoir une action du point de vue urbanistique sur la prise en compte de la biodiversité. Par contre, je vois bien que les solutions fondées sur la nature sont de plus en plus mobilisées par les collectivités, et pas forcément par le service d'urbanisme, hein, mais par les collectivités dans leurs ensembles, parce que ça permet un contrepoids sur cet aspect très réglementaire et finalement très enfermant des trames vertes et bleues. Et ça permet du coup d'agréger différents types d'initiatives qui permettent de sortir de cette vision un petit peu fixiste qui a été mise en place par les lois Grenelle sur ces politiques trames vertes et bleues. J'espère que j'ai été claire dans ma réponse.
Oui, je vous ai trouvé très claire.
Oui, merci beaucoup. C'était très clair.